On va passer au mulligan maintenant. C'est un débat que vous avez envie de lancer, quelque chose qui vous interroge, une info choc. Bref, vous décidez de ce que vous voulez. En quelques mots, résumez votre mulligan, s'il vous plaît, les copains. Médéric, tu veux parler de quoi ?
Je vais parler du côté de plus en plus excitant, peut-être, du livre.
Je te vois bien. Ok, à chaque fois tu t'en déperches, hein, parce que je te parle du tournoi, oui. Le Arnold Palmer, je vais jamais y arriver, tu me parles du livre, je te parle du player, tu me parles du livre, donc là on va en parler.
Pour arriver
très bien au livre, prêt. Comme ça c'est tes raccords. Romain ?
Alors moi ça sera Pauline Roussin, pardon, un top 3 qui est passé un tout petit peu trop inaperçu selon moi.
Ok, donc tu vas en parler, et toi Simon ?
Moi, ça va être Shane Lowry, ce goinfre au Cognizant, qui a réussi à ne pas remporter le tournoi.
Et ça, c'était une prouesse quand même, de ne pas le remporter. Ah, oui.
C'était presque plus dur de le perdre que de
quoi,
le gagner.
C'était l'ours lui a posé un petit problème, c'est ça ?
Voilà, le piège de l'ours, ouais.
Le piège de l'ours. Mmh. Le beer trap. Mmh. On commence avec toi, Médéric.
Et en fait, on va être dans la continuité de ce qu'on s'est dit juste avant et depuis le début de l'année.
Je rappelle juste que Ram a gagné ce week-end.
Que Ram a gagné ce week-end, qu'en équipe ça a bien joué aussi, qu'on a nos habits belges qu'on fait 2 et 3 et ça a joué fort. Et c'est pour ça que je voulais parler de ça, c'est que depuis le début on ne parle que de ce côté un peu pétrodollar de ce circuit. Et au final, entre Anthony Kim qui a ramené un peu d'émotion, je trouve, et d'histoire dans ce circuit il y a quelques semaines ou quelques jours, et la victoire de Ramla, où on sent que c'est pas juste je prends mon chèque de 4 millions. On sent que, en tout cas, j'ai senti beaucoup de... je sens que les joueurs de plus en plus se battent pour aller gagner, même s'ils savent ce qui va se passer, qu'ils n'ont pas besoin du chèque à la fin. En tout cas, ce n'est pas sûrement plus l'élément depuis qu'ils ont signé l'élément numéro 1. Mais je trouve que là, il y a de la bataille, ça joue bas, ça joue fort dès le début de semaine. Effectivement, est-ce que ce passage en un tour de plus a aidé et a rendu ça un peu plus officiel, peut-être. Mais en tout cas, je trouve qu'on le dénigre vachement. Je voyais le week-end, autant jeudi, vendredi, ça a été très calme. Mais samedi, dimanche, il y a eu du monde. C'était plein, apparemment, de sources présentes sur place. Apparemment, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et puis non, je trouve que c'est dommage de mettre de côté circuit. Et je pense que clairement, avec ce qu'on voit sur le PGA Tour, il y a plus côté excitant, à part les majeurs. Le DP World qui disparaît, outre ce qui se passe avec le contexte
géopolitique
actuelle, je trouve c'est triste.
Ram qui revient très bien, parce qu'il avait signé deux deuxièmes places, que là il gagne, il n'avait plus gagné depuis septembre 2024. À Chicago. Donc, c'est dire si c'est quand même une performance à souligner. Tu as parlé de Thomas Dutry qui a terminé deuxième. Victor Pérez, lui, a terminé 16e. Donc, c'est vrai qu'on sent que le livre... on se posait la question au début de saison. Est-ce que les départs de Bruce Koepka, de Patrick Reed, est-ce que ça allait un petit peu plomber le livre ? On sent que la compétition redevient un peu sexy.
Ouais, et puis je pense qu'ils vont être prêts, objectivement. Je vous l'ai déjà dit, moi je sens un Ram très fort cette année. Sur les majeurs, je vois un Ram présent et pourquoi pas venir gagner très rapidement, parce qu'il joue bien, il joue vraiment très bien au golf. Et que ça soit le livre ou ailleurs, ça, je le trouve très solide. Donc effectivement, je trouve ça juste dommage qu'on ne le mette pas plus en avant. Et puis, je trouve qu'ils ont créé quelque chose. Même en termes de communication, ils commencent à être beaucoup plus dynamiques que ce qu'on voit sur les autres circuits mondiaux.
Est-ce que vous voulez réagir sur le livre ou pas ?
Moi, je me dis qu'il avait des points sur l'i à remettre, notre ami Ram. Là, donc, du coup, il l'a fait, hein, de belle manière. Voilà. Mais la petite victoire.
Bon, en tout cas, Yon Ram qui gagne sur le livre, ça ne peut faire que du bien à l'intérêt que suscite... Le livre, ça fera plaisir à mon cher Médéric.
Non, et puis l'impact, moi je le vois, l'impact en Espagne, pour le golf en Espagne, ça bouge. Ram a encore ça reste le joueur numéro 1 espagnol actuellement, et ça dynamise beaucoup le marché du golf et le golf en général, ça communique très fort. Et puis aujourd'hui, les joueurs du livre, je trouve, commencent à reprendre vraiment leur place là où ils ont été un peu mis de côté par les spectateurs ou les golfeurs. Ça commence à redevenir sérieux.
On n'était pas là la semaine dernière pour débriefer le tournoi de Sean Lowry, ce tournoi qui a vu quasiment la victoire de Sean Lowry, quasiment. Parce que bah, il s'est troué à la fin, il ne nous avait pas forcément habitué à ça, et ça tu voulais revenir dessus, Simon.
Oui, parce que c'est un joueur avec lequel je roule depuis longtemps, je crois que tout le monde l'aime, tout le monde l'apprécie, sur le tour, et chez les spectateurs, c'est un joueur qui a un petit jeu fabuleux, qui est un bon camarade. On a souvent salué ses performances en rider. C'est lui qui rentre le putt là, lors de la dernière rider pour être sûr de retenir la coupe. Donc c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'étais content à l'idée de le voir remporter le Cognizant. C'est l'ancien Honda classique. Je préférais d'ailleurs le Honda classique. Il a trois coups d'avance avec trois à jouer, si je ne m'abuse. Et il fait double au 16, double au 17. Et il rate le putt pour birdie au 18. Un carnage en bonne et due forme. Et surtout, ce qui m'a interrogé, c'est les choix. Alors, c'est sur le par 3 du 17, je crois. Il sort son fer 4. Il tape un fer 4, mais catastrophique. Même moi, je ne tape pas des coups aussi merdiques. Passez-moi l'expression. J'ai été aussi triste qu'en colère qu'il laisse filer une victoire pareille. Et je finis par me demander si on nous a pas un petit peu menti sur la marchandise, quoi, parce que autant il y a un Shane Lowry, joueur d'équipe, bon camarade, et tu vois le Rory's buddy, quoi, tu vois, le mec qui est là pour le garde du corps officieux de Rory McIlroy, que ce soit dans le jeu ou sur les parkings de Ryder Cup à Rome. Mais je me demande en fait si Shane Lowry est un aussi grand joueur que ce qu'on essaye de se faire croire.
Okay.
Depuis sa victoire, il a remporté The Open 2019. C'était chez lui, il faut le rappeler, en Irlande. Il a trois victoires sur le PGA Tour.
Il a fait deuxième à l'US Open.
D'accord, il a des top 10, d'accord. Mais bon, au bout d'un moment, faut aller planter, quoi. Je veux dire, encore une fois, on parle d'un très très fort joueur, c'est pas la question. Est-ce que Shane Lowry...
Trois victoires sur le PGA Tour,
ouais,
par exemple.
Seulement, quoi. Ouais. Voilà. Et moi, je me demande si on l'a pas vu un petit peu trop beau. Ou alors, je me demande ce qui lui manque. Alors, il a expliqué qu'il y avait sa fille de 4 ans qui, pour la première fois, était venue le voir jouer à l'arrivée au 18. Et il dit que ça l'a traumatisé.
Heureusement que Fabien Denoy n'en est pas là. Parce que là, celui-là, je pense qu'il te mangeait les mollets.
Non, mais... et moi, j'ai été le premier à dire, si chaque fois que ta famille vient te voir sur le 18...
Oui, fais pas du sport de haut niveau.
T'es incapable de taper un shot. Bon, voilà. Donc, ça m'a mis en colère, ça m'a déçu, et je m'interroge sur la valeur intrinsèque, finalement, absolue, de Shane Lowry en stroke, parce que encore une fois, en Ryder Cup, il est hors de question que je le mette pas dans l'avion.
Donc, je résume rapidement ce que vient de dire Simon. Je vous pose la question, Romain et Médéric, et vous avez le droit de m'envoyer bouler, mais en gros, est-ce que Shane Lowry, en stroke, c'est une trompette ?
Bah non.
Alors trompette, ça reste peut-être.
Ouais, mais je résume efficace.
Oui, voilà. C'est bien résumé. Ouais. Non, c'est pas une trompette. Bon, il a eu un passage à vide. Faudrait pas qu'il en ait un deuxième. Voilà, faudrait pas que ça recommence parce que là, pour le coup, ça fait beaucoup quand même.
À un moment donné, Tommy Fleetwood, on se posait la question aussi, hein.
C'est peut-être un bout de maladie des joueurs européens quand même dans l'ensemble, parce que Fleetwood, c'est un joueur extraordinaire en Europe. Je dis pas qu'il joue mal aux États-Unis, mais quand même était compliqué, c'était douloureux, hein. Perdu la première semaine, fallu aller se battre, t'as l'impression que ça faisait 20 ans qu'il se battait pour ça, et comme tu disais JC, 3 victoires pour Lowry, Batia a 24 ans, il en a déjà fait 3, hein. Et d'autres tournois que ce qui a été fait par Lowry aussi, donc je pense qu'en fait il gagne et il est très performant dans des conditions spécifiques, il faut que ça soit en équipe. Et je pense qu'il y a plein de joueurs comme ça qui sont plus performants en équipe que quand ils sont en solo, parce qu'il y a peut-être une gestion du stress ou un engouement, une ou une motivation exactement qui peut être différente. Après, effectivement, je mettrai pas un Lowry, je parierai pas en début de majeur cette année sur une victoire d'un Lowry, quoi. Jamais.
On passera au prono des players. Attention, me dit pas Lowry, hein.
Non, c'est pas prévu.
Non, mais il y a peut-être aussi un problème de confiance, parce que tu regardes, c'est lui qui avait remis en selle Rory en gagnant le Zurich avec lui, alors que Rory plantait plus
après le Masters.
Et tu regardes en Ryder Cup, c'est pas le même mec, mais en solo, il se trompe. Et quand je suis allé vérifier un peu, en sachant qu'on en parlerait aujourd'hui, je suis tombé sur un article de Golf Digest, sur un site américain, où il disait que je ne sais plus quels au pluriel analystes avait souligné, alors moi ça m'avait échappé, avait souligné en direct à la télé que au 17, là, avant de taper ce coup de fer 4 catastrophique, il avait changé sa routine et qu'il avait fait une routine très très courte, qu'il avait fait un seul swing d'essai et que machin. Donc, façon de dire, après avoir fait son double, finalement, au lieu de se réinstaller dans un confort mental ou quoi, dans des certitudes, en se disant « bon, j'ai pas encore perdu, il me reste un coup d'avance », Il aurait cédé un petit peu à la panique, quoi. Voilà. Et moi, ça m'inquiète pour mon petit Shane, quoi.
Ok, tu veux nous parler d'une Française, toi, Romain ?
Oui, du coup, Pauline Roussin-Bouchard qui a signé sur le HSBC à Singapour une belle troisième place. Et alors, pourquoi je le souligne ? Parce que c'est pas un tournoi anodin, c'est un tournoi quand même qui est déjà du LPGA, donc qui est un gros tournoi, un gros circuit, et que le plateau était très relevé. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est à souligner. Elle a été très solide au drive, elle a eu un jeu de fer qui était très très consistant aussi. Elle reste calme sous la pression. Enfin, je trouve que son attitude a été positive tout le temps. Moi, ce que j'adore, c'est qu'elle a tout le temps le sourire. Il y a jamais un moment où elle tire la tronche et tout ça. Elle est toujours elle a fait preuve de maturité, je trouve, assez énorme sur ce tournoi-là. Et elle l'a construit aussi, ce top 3. Donc, voilà. Et Pauline, je ne sais pas si vous la connaissez tous, mais c'est vrai qu'elle a quand même un beau palmarès. Alors, ça reste peut-être sur de l'amateur. Elle est ancienne numéro 1 mondiale amateur. Elle a dominé le circuit universitaire. Elle a des victoires en Europe à son passage pro. Elle a toujours été identifiée comme un gros potentiel, mais on sait très bien que le passage sur le circuit au-dessus, donc le LPGA, c'est toujours compliqué. C'est quelque chose de brutal. Et voilà, ça, c'est le sport de haut niveau. Donc la densité, elle est forte, elle est incroyable, elle est présente. Et ce top 3-là montre que finalement, les joueuses françaises sont présentes, parce qu'on a Céline Boutier qui est là aussi, qui performe. Donc on a un champ de joueuses qui pousse et qui est de plus en plus présente. Je sais que la Fédé fait un gros travail aussi là-dessus. Et donc voilà, donc ça veut dire que le golf féminin se porte bien et c'est de bon augure pour la suite. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite de la saison avec Pauline et voir ce qu'elle fait sur le reste de la saison.
Oui, puis tu fais bien de mettre cette performance en valeur. C'est pas comme si on s'étouffait sur les podiums des Français à chaque tournoi. Donc là, le LPGA, il faut évidemment en parler. J'en profite pour, on n'en a pas dit un mot du tournoi du DP World Tour ce week-end. C'était à Johannesburg, le Johannesburg Open, avec la cinquième place de Raveto. Donc ça, c'est important d'en parler. Et puis la 28e place de Romain Langasque. Et puis aussi aux États-Unis, avec ce tournoi, le Puerto Rico Open, parce que Mathieu Pavon n'était pas qualifié pour jouer le tournoi signature du Arnold Palmer Invitational. Il a terminé 42e. Voilà, pour être tout à fait complet.
Oui. Je me permets, par rapport au Puerto Rico, on parlait de la nouvelle garde qui allait arriver, les Américains. Le jeune Brown qui a terminé en 18 ans, qui a terminé en 3e.
3e,
là,
bon, moins 14.
Et qui nous a fait, je trouve, mais il a fait un bien fou. D'ailleurs, j'ai regardé le tournoi quand il a craqué un peu sur la fin.
Le 13, mais il fait un triple bogey.
Extraordinaire.
Mais sinon, il ne fait que des birdies.
Donc non, je trouve que ça fait vraiment du bien d'avoir, ça arrive, alors souvent via les Américains, forcément ils savent faire, hein, ils ont, d'une ils sont plus et en plus ils ont les bonnes méthodes, mais non, ça fait du bien.
Et Adrien Sadier n'a pas passé le cut, voilà, juste pour vous le dire. Comme ça, il a bien fait de changer de caddie. Non, mais qui est resté avec Andrea Ginola.
Et je me permets, on parlait des majeurs et aussi la qualification. Je suis pas sûr qu'on en ait parlé de la qualification de notre ami Fred Lacroix pour The Open.
Non, c'est vrai, on n'en a pas parlé.
Et ça, c'est pas rien. Je trouve que j'aurais pu le mettre dans mon hooligan parce qu'effectivement, c'est pas rien. Et il a fait une très bonne fin de partie qui lui a permis de revenir. Et il n'était pas au point de gagner, mais il n'était pas loin de revenir et de se positionner encore mieux que ce qu'il a fait.
On a pas mal de joueurs français là, qui vont faire le Players, non ? Ils sont combien ?
Le Players ?
Ouais.
Non, il pratique l'humour, notre nouveau copain.
On a Mathieu Pavon,
c'est excellent.
Tu parles de The Open.
Ah bon?
Ah oui, The Open peut-être, mais alors le player,
non, pas le player.
Mathieu Pavon. Mais qui s'est qualifié, donc on va le retrouver dès jeudi et on a hâte de voir ce que ça va donner.
Le troll direct.
Je me suis dit, attends, j'ai raté un épisode.
Excellent player, Jean-Christophe.
Ils sont 15. Ah oui, d'accord. Raveto, tout ça, ils jouent le player. Très bien. On les embrasse, hein, bravo.